Question d'islam par Al-Bunshir. Aujourd'hui et dimanche prochain, nous parlerons de l'Alcoran. L'Alcoran, c'est l'appellation latine ou du temps des auteurs latins, ou c'est la réception qu'a fait l'Europe du Coran, ce livre où la parole de Dieu, selon la doxa islamique, est consignée par écrit, même si le passage de la parole de Dieu et le codex fait qu'on a une perte en ligne, disent certains. Mon invité aujourd'hui, et je m'en réjouis qu'elle ait accepté de revenir encore dimanche prochain, est Olivier Anne. Olivier Anne, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci, merci vraiment de nous faire l'amitié de venir. C'est que vous avez composé un ouvrage considérable, je le dis sans grandiloquence aucune, cette belle monographie sur le Coran, comment l'Europe a découvert le Coran aussi aux éditions Belin. Et nous faisons cela en deux temps. Aujourd'hui, c'est pour mettre un peu d'histoire dans la géographie. On va voir comment le Coran a été reçu par les non-musulmans, notamment en Orient, et comment est-il venu en Europe, par quels canaux. Et la semaine prochaine, nous finirons l'histoire avec ce que vous-même appelez l'arabophilie ou l'islamophilie, sans néanmoins quelques critiques par rapport au Coran, et nous, une critique au sens académique et au sens historique, nous verrons cela ensemble. Vous êtes, Olivier Anne, agrégé d'histoire, docteur ès lettres et en histoire aussi, professeur aux écoles militaires de Saint-Cyr, Coëtquidan, et vous êtes chercheur associé à l'Université d'Aix-Marseille, et vous êtes auteur de nombreux ouvrages, tous consacrés à l'islamologie savante. Comment êtes-vous amené à vous intéresser à cette référence scripturaire première des musulmans?
Alors, je vais être obligé de vous parler un peu de mon parcours personnel, qui est un peu tarabiscoté. Donc, j'ai une formation de médiéviste occidentaliste très très classique. Travaille sur le latin, travaille sur les sources, travaille sur les manuscrits. Et mon parcours personnel a fait que j'ai été baigné dans le monde arabo-musulman au moment de mes études, à la fois à travers la conversion de mon frère à l'islam et à travers un séjour de plusieurs années en Égypte. Ce séjour m'a permis de nouer de très profondes amitiés avec des musulmans et d'essayer de comprendre le fonctionnement, si on peut parler de fonctionnement, de la pratique musulmane, de la théologie musulmane. Et à mon retour en France, j'ai souhaité continuer cette découverte en essayant d'approfondir notamment la langue arabe. Alors évidemment, le problème pour un Français qui est au début de la langue arabe, c'est comment approfondir non seulement la langue arabe, mais pas seulement dans une optique linguistique ou universitaire, mais d'essayer de pénétrer à l'intérieur de ce livre, de sa rythmique, de son sens pour les croyants. Et donc j'ai été reçu pendant plusieurs années en école coranique en région parisienne, et donc pendant quelques années j'ai eu ce bonheur et en même temps cette expérience déstabilisante d'apprendre la langue arabe, d'apprendre les sourates avec les méthodes de tajwid traditionnelles.
Alors le tajwid pour nos auditeurs est cette cantillation, cette manière de psalmodier le Coran.
Exactement. Et donc cette découverte, qui est une découverte d'amitié, une découverte de sens spirituel à travers le livre, par la suite j'ai souhaité l'enraciner cette fois-ci dans une recherche de type intellectuel ou universitaire. Et donc, depuis à peu près 15 ans, je ménage la découverte des sources latines de l'Occident avec une comparaison avec les sources de l'histoire de l'islam au sens très général. Et notamment, je me suis intéressé depuis une petite dizaine d'années au transfert culturel. Comment passe-t-on de textes en monde arabe, en langue arabe, à des textes en langue latine? Comment on bascule? Comment on fait des traductions? Qu'est-ce que traduire? Avec évidemment toute cette question fascinante des transferts scientifiques ou pré-scientifiques, puisque ce ne sont pas encore des sciences modernes, transferts pré-scientifiques dans l'Occident latin.
Ce qui explique le titre même de votre ouvrage, l'Alcoran.
Oui, alors... Je voulais, par un mot qui sonne, qui claque, rappeler comment l'Europe a essayé de comprendre ce qu'était le Coran. Mais évidemment, le mot « Qur'an », la récitation ou la lecture, n'était pas du tout compris par les Européens au Moyen-Âge. Et lorsqu'ils ont commencé à entendre parler de l'existence de ce livre sacré, ils ont essayé de traduire, de translittérer le mot Coran dans les langues latines. Et leur seule manière a été de fusionner l'article, le Coran, El Coran, en un seul mot. Et cette appellation Al Coran est restée extrêmement prégnante en Europe, à peu près à partir du XIIe siècle, quasiment jusqu'au XIXe siècle. Et dans ce rapport, dans ce changement, Al-Coran, Coran, se joue la précision d'un vocabulaire, l'amélioration de la perception de l'islam. D'ailleurs, amélioration de la perception de l'islam qui va de pair avec la découverte d'un autre vocabulaire, puisqu'on parlait au Moyen-Âge de sarrasins à propos des musulmans ou des arabes, ça peut être ambigu. Et on a commencé à parler à partir du XVIIe, XVIIIe siècle de Coran, cette fois-ci sans le Al.
Oui, sans l'article.
Et les musulmans sont devenus les mosilmans au XVIe siècle et progressivement les musulmans. Donc tout le vocabulaire évolue quasiment en même temps.
Et les turqueries de Molière avec les mahométans.
Exactement, avec les mahométans. Alors, avec tout ce problème autour du mot Mahomet, puisque à partir dès le 8e, 9e siècle, Mahomet est identifié comme personnage historique, même s'il est très critiqué en Europe latine. Mais... les problèmes de transcription de l'arabe au latin font que on ne l'appelle jamais Mohamed ou Mahomet ou Mohamed, on l'appelle Mahomet. Et ce que les latins ne perçoivent pas très bien, c'est que l'expression Mahomet peut être perçue de façon extrêmement négative par un croyant, puisque elle désigne le non loué au lieu de celui qui est digne de louange en arabe. Alors, de temps en temps, dans les médias et aussi sur certains sites internet, certains fidèles pensent que c'est une accusation voulue, c'est-à-dire que l'expression Mahomet était faite exprès pour se moquer du prophète Mohammed. En réalité, c'est d'abord une difficulté de transcription de la part des Européens.
Alors que pensez-vous, puisque vous abordez ce sujet très vite, nous sommes en train de faire des va-et-vient dans l'histoire, que les premiers à avoir corrompu l'appellation même de Mohammed en Mehmet, ce sont les Turcs Seljoukides, parce qu'ils n'arrivaient pas à prononcer le Ha, et ce sont eux qui ont dit, au lieu de dire Mohammed, on dit Mohammed. La preuve, c'est qu'on parle de Mahomet le Conquérant en 1453, lors de la prise de Constantinople le 29 mai.
Et vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, l'expression, cette fois-ci en Afrique musulmane, Mamadou, n'a pas du tout posé les mêmes types d'accusations que l'expression Mahomet. On sent bien que l'usage par les Européens de l'expression Mahomet suscite beaucoup plus de ressentiment que d'autres adaptations en terre d'islam.
Parce qu'il y a, ne nous y appesantisons quelques instants, il y a le « ma » qui en langue arabe oui. Renvoie à une forme de négation.
Négation, tout à fait.
Et donc, c'est par un curieux concours de circonstances, celui qui est digne de louange ou celui qui est loué devient, avec ce ma qui précède, celui qui est non loué.
Qui est non loué. Mais ça, les Européens ne le voient pas du tout. Hein. Quand on reprend les textes en langue latine, quand on reprend les chroniques ou les traités polémiques contre le prophète ou contre le Coran, en fait, les Européens ne cernent pas du tout cette négation.
Et à ce sujet, très brièvement, ça renvoie à tout le débat sur le paraclet, dont on dit qu'il ne faut pas le traduire par l'Esprit Saint, mais celui qui serait digne de louange. Et donc voilà une annonce dans les écrits néo-testamentaires de celui qui sera digne de louange, en l'occurrence le prophète de l'islam.
Exactement. Mais pour identifier Mohammed comme ce paraclet, cet avocat, il faut passer par le syriaque. Donc, ce qui est très riche finalement dans cette histoire des relations entre le monde européen et le monde islamo-arabe, c'est qu'on est toujours obligé de passer par une multitude de langues, une multitude de transferts qui expliquent les incompréhensions, mais aussi de temps en temps les rencontres.
Ce qui justifie, Olivier Anne, le fait de consacrer deux émissions à ce sujet, c'est que c'est tellement dense et que nous pouvons, pour nos auditeurs, nous étaler un tout petit peu sur certains aspects. D'abord, l'appellation Mohammed ou le nom Mohammed était très peu connu avant même Mohammed comme nourrisson, comme enfant, avant d'être appelé ainsi par sa mère et son grand-père, puisque sa naissance, selon la tradition, est posthume par rapport à son père. Donc la décision de lui donner ce nom n'est pas venue du père Abdallah, mais est venue plutôt et de sa mère Amina et de son grand-père Abdelmuttalib. Et vous dites qu'il faut passer par le syriaque. Le second point, c'est que le Coran lui-même n'est pas, l'étymologie du mot, n'est pas arabe et syriaque.
Oui. Le Keriana. Le Keriana, c'est dans la langue syriaque et dans les traditions chrétiennes hétérodoxes du Proche-Orient anté-islamique, est un lectionnaire. Alors pour les auditeurs, un lectionnaire dans les traditions liturgiques chrétiennes, qu'elles soient hétérodoxes ou pas hétérodoxes, c'est un livre, une espèce de recueil de l'ensemble des textes qu'on va pouvoir lire lors de la célébration eucharistique.
À haute voix. Lors d'un office.
Voilà, exactement. Et souvent, ces textes sont en fait issus, découpés, pris de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, ou parfois même de commentaires postérieure. On va lire du Saint-Augustin, on va lire du Saint-Jérôme. Et tous ces textes forment un recueil, et chaque texte dans ce recueil est classé en fonction du dimanche pour lequel on va lire tel ou tel texte. Et évidemment, lorsque vous ouvrez du début jusqu'à la fin, lorsque vous lisez de façon continue un lectionnaire, il n'y a absolument pas de cohérence, puisque justement, c'est fait tel quel. C'est pas fait pour qu'il y ait une cohérence d'un texte à l'autre. C'est fait pour être lu et ensuite commenté par le prêtre lors de son homélie. Et les Syriaques, comme les autres, comme les Byzantins, comme les Melkites, comme les catholiques plus tard, utilisent des lectionnaires. Et l'appellation Keriana en syriaque, qui bascule en arabe dans le mot Qur'an, pourrait indiquer, mais là on est dans des hypothèses philologiques très intéressantes mais qui sont débattues, est-ce que le Coran ne serait pas un Keriana, ne serait donc pas un lectionnaire. Ce qui pourrait, à ce moment-là, expliquer pourquoi on a parfois tant de mal à comprendre certains passages au sein des sourates, certains passages logiques d'une sourate à l'autre. Puisque dans un lectionnaire, il n'y a pas de logique thématique d'un texte à l'autre, et même parfois dans la forme, vous pouvez avoir un extrait de psaume très rythmé, très haché, qui suit un texte littéraire, qui raconte une histoire, raconte l'histoire d'un prophète, l'histoire même aussi de Jésus. Et donc, se joue dans la différence entre le lectionnaire tel que le voient les chrétiens et le Coran tel que le voit la tradition musulmane, se joue en fait des parallèles probables entre les deux univers qui se sont nourris les uns les autres. Et comme vous le disiez, une partie de la famille du prophète, surtout à travers Amina, avait probablement, c'est ce que raconte en tout cas la Sira, avait des liens avec certains moines hétérodoxes, entre guillemets, qui pourraient expliquer, mais là aussi on est dans le domaine de l'hypothèse, qui pourraient expliquer tous ces liens, tout cet enrichissement dans la tradition, la jeune tradition coranique, de la part de traditions chrétiennes du Proche-Orient.
Alors vous avez évoqué la sira. Disons que pour nos amis auditeurs, que c'est une forme de curriculum vitae, une biographie. Alors pour certains, c'est une biographie peut-être un peu augmentée. D'aucuns parlent même d'une légende dorée d'une vie. En revanche, ce que vous avez développé, cher Olivier Anne, m'appelle deux questions. La première, quand le lectionnaire, le terme syriac-raliana a été arabisé ou ramené en arabe en Coran, ce qui explique pourquoi on le traduit, mais d'une manière très polysémique, en récitation, prêche, appel, lecture, d'une part. Je ne sais pas si vous confirmez cela, dans une première acception, oui, parce que le terme arabe, qara'a, le verbe, renvoie aussi dans une deuxième acception à diffuser, qara'a salam, à diffuser la paix, et dans une troisième acception, ça a une notion de protection. Une mère qui porte son bébé, son fœtus, en langue arabe, taqra al-janin, donc elle protège tout en portant, tout en préservant son bébé. Donc il y a toutes ces notions-là. Et de ce point de vue, l'appellation arabe du Coran pour la première question, je ne sais pas si vous l'infirmez ou vous confirmez cette densité du mot, cette polysémie du mot arabe. Et la seconde, c'est ce qui explique le caractère déroutant, incohérent, cette rhapsodie sans ordre, ni art, ni liaison de Voltaire, s'explique par le fait que c'est une compilation de textes destinés à une homélie.
Tout à fait. Et sur le premier point, cette polysémie du mot, notamment dans la protection, souvent, c'est assez étonnant, puisque dans l'opinion publique, souvent on dit, oui, bon, le christianisme, c'est vraiment une religion de femmes, et l'islam, c'est une religion d'hommes. C'est très masculin, l'islam. Or, dans tous ces termes qu'on peut découvrir dans le Coran, il y a une féminité très forte, il y a une maternité très forte, hein, ne serait-ce que dans l'appellation Ar-Rahman Ar-Rahim, la Rahma, la matrice, hein, ce qui avait fait d'ailleurs que André Chouraki avait traduit par matrician, Dieu est celui qui forme dans sa matrice, entre guillemets, telle une mère. Donc il y a des aspects très féminins, très maternels dans cette appellation. Et sur le deuxième point, le prophète, d'une certaine manière, est celui qui clarifie finalement. C'est pour ça que j'avais écrit une biographie historique, autant faire se peut, du prophète Mohammed, et j'avais appelé justement ce livre « Le lecteur divin », parce que il est celui qui lit, mais il est aussi celui qui explique finalement, qui rend clair.
Donc, de fait, c'est celui qui coranise la parole de Dieu,
exactement,
dans son sens étymologique.
Exactement. Il récite cette parole divine de toute éternité, le Kitab céleste, et il la proclame. Et cette proclamation qui est au départ orale et exégétique se transforme progressivement en mushaf, c'est-à-dire en codex écrit.
Je passe maintenant très, très tôt et très vite à la réception par les non-primo-musulmans du Coran immédiatement après la mort du prophète. Peut-être qu'on n'est pas encore arrivé à la Vulgate de Hotman ou immédiatement aux alentours de ces travaux de recension. Et après, peut-être qu'on a colligé le Coran, comment ceux qui n'adhèrent pas à la foi dans sa version islamique perçoivent-ils ce codex?
Avant la mort du prophète, les premiers non-musulmans à en entendre parler, ce sont évidemment les non-convertis dans le Hijaz, dans l'ouest de l'actuelle Arabie Saoudite, et ce sont aussi les communautés juives, peut-être chrétiennes, mais surtout juives, qui, de toute évidence, n'étaient pas des communautés talmudiques. Il semble pas que les juifs d'Arabie étaient proprement des juifs rabbiniques. Donc, ils ont été les premiers à comprendre, à entendre ce texte ou cette récitation. Nous n'avons que des sources musulmanes pour nous donner leur réaction qui, évidemment, est négative. Par la suite, avec les années 640, 650, la conquête permet à la jeune communauté de prendre le contrôle du Proche-Orient, de la Perse. Et là encore, côté perse, on manque de sources pour voir quelle est la réaction des communautés persanes, des communautés qui professaient encore le zoroastrisme. En revanche, dans l'Ouest, donc dans les terres entre guillemets chrétiennes, dans les terres byzantines, on a quelques chroniques qui s'étonne de ce mouvement qui sort du désert, entre guillemets. Il s'en étonne, mais sans avoir de notion très claire de ce qu'est cette jeune communauté. Puisque le monde arabe, le monde désertique, ce qui était autrefois connu comme soit l'Arabie heureuse, soit le Hedjaz, soit aussi la région des Nabatéens, toute cette région-là était considérée par les Byzantins, mais aussi par les Latins, comme le fourrier des hérésies. Du désert, du monde arabe, sortent toutes les hérésies. Et donc, lorsque les premières tribus fédérées par l'islam sortent du Hedjaz, finalement, les Byzantins imaginent derrière ce qui pourrait être la foi de ces gens-là, une foi tout à fait hérétique, c'est-à-dire hétérodoxe. Ce qui va confirmer leur idée, c'est que ils apprennent très vite à comprendre que ces gens-là sont monothéistes, mais ils parlent de Marie, ils ne dédaignent pas le Christ, en même temps ils sont attachés à certaines formes de pratiques juives. Donc il y a une espèce de confusion dans l'esprit des Byzantins, dans l'esprit des chrétiens, sur ce que sont c'est ce qu'est cette jeune communauté et sa foi. Donc il y a un flou complet. Le premier qui va essayer de clarifier les choses, c'est un homme qui a été probablement un serviteur des premiers califes oumayyades, Jean Damascène, dont le père aurait, dit-on, facilité l'entrée des troupes arabes à Damas. Et son fils, Jean Damascène, est donc un fonctionnaire chrétien, mais un fonctionnaire de l'Empire oumayyade. Il finit probablement parce que sa foi chrétienne et son verbe haut, peut-être même un petit peu polémique, il finit par quitter son poste et entrer au monastère. Et au monastère, il va écrire, non pas sur l'islam, puisque finalement on ne l'appelle pas islam chez les Byzantins et chez les chrétiens, et il va essayer de comprendre ce qu'est la foi des Sarrasins, et on pense que c'est même lui qui crée le mot de Saracène, Sarakenoï ou Agarénien.
France Culture, question d'islam, Khaled Bencher.
Aujourd'hui avec l'historien Olivier Hahn, à propos, nous parlons à propos d'Al-Coran, c'est délibéré que nous avons gardé le choix du titre de la monographie d'Olivier Hahn consacrée au Coran selon l'appellation qui prévalait en Europe jusqu'en gros 19e siècle. Olivier Hahn, je le rappelle pour les auditeurs, vous êtes agrégé et docteur d'histoire et vous êtes professeur aux écoles militaires de Saint-Cyr, Coëtquidan. Vous nous parliez donc de Jean Damascène, qui finalement a vécu dans les cours califales. Ce qui est curieux pour ce personnage, c'est que tout en étant un serviteur de la dynastie Omeyyade, était virulent au niveau théologique et on parle, on dit que c'est parce qu'on ne pouvait pas lui répondre que les tout premiers théologiens musulmans s'étaient exercés à la connaissance théologique pour être de bons émules ou de bons contradicteurs le concernant. Donc, par ricochet, il a permis à la théologie islamique, si je n'exagère pas le propos, en tout cas de se construire petit à petit.
Exactement. Alors, le problème, c'est que cette analyse qui est très courante, hein, qu'on lit très souvent, est aussi une analyse qui favorise finalement les sources chrétiennes. C'est-à-dire que l'islam est devenu rationnel ou rationalisant entre guillemets grâce aux chrétiens. On retrouve le même type de peut-être de défaut de perception lorsque, par la suite, on dira, l'Europe chrétienne a redécouvert ou née aristotélicienne que par l'islam. Or, on sait bien, enfin, on le sent bien quand on lit les sources que, en fait, on est dans des bouillonnements culturels. Ce qui est assuré, c'est que le monde califal, particulièrement à Bagdad, mais pas seulement, a été un bouillon de culture. Et que les califes, bien sûr, ils ne renient jamais leur islamité, mais ils fédèrent, en fait. Ils fédèrent des mondes, ils fédèrent des cultures indiennes, des cultures persanes, des cultures chrétiennes. Et tout cela donne justement le bain pré-scientifique qui après va se diffuser en Europe. Donc, il est clair, en revanche, que lorsqu'on lit Jean Damascène, on est quand même étonné et agréablement étonné par, non pas par le ton qu'il donne à sa polémique, mais par les méthodes. Il a des méthodes qui sont des méthodes de critique du texte. Il a très probablement eu entre les mains un mousraf, un codex. Il prend sourate après sourate, il compare chaque sourate avec ce qui pourrait être sa source biblique, et il montre à quel point, dans une comparaison texte à texte, combien le Coran, entre guillemets, quitte sa source originelle pour développer d'autres aspects. À tel point, et c'est d'ailleurs étonnant, c'est que il évoque à un moment une sourate qui ne se trouve pas dans le Coran, dans le Mousraf reconnu. Et alors évidemment, il y a des historiens qui se disent, mais c'est étonnant, il décrit une sourate complète, après en avoir décrit une vingtaine qui correspondent effectivement à des sourates coraniques, et là tout d'un coup il décrit une autre sourate qu'on ne trouve nulle part. Alors l'historien, qui parfois est un peu taquin, ne peut pas s'empêcher de poser une question. S'il est si fidèle dans la description de certaines sourates, pourquoi en inventer une? Est-ce que elle n'existerait pas? Et donc le problème ou l'enjeu dans ces lettrés, qu'ils soient chrétiens ou chrétiens byzantins, chrétiens nestoriens ou autres, c'est que en fait il critique un texte, il se lance dans un combat intellectuel au moment où le dogme entre guillemets ou la doctrine musulmane est en constitution ou est en voie d'achèvement de constitution, au moment où les termes qui permettent de la définir, qui permettent de se confronter rationnellement, argument contre argument, au moment justement où cette polémique elle-même, cette apologétique islamique elle-même se met en place. Donc c'est une naissance qui est très vite contrariée par un argumentaire chrétien, argumentaire qui est très fourni. Donc comment identifier et critiquer une doctrine qui, de toute évidence, se formalise progressivement sous nos yeux?
Il y a trois choses dans ce que vous dites, Olivier Anne. Le premier, c'est l'approche rationnelle ou la naissance du rationalisme en contexte islamique grâce au contact avec les chrétiens d'Orient, comme on dit maintenant.
Oui. Bon.
Même si par moment, on dit oui, mais l'école de Salamanque en Occident est revenue à ça parce que c'est réapproprié toutes les méthodes de l'école mu'tazilite, cette fameuse école des premiers rationalistes musulmans et dont l'étymologie renvoie au fait qu'ils s'étaient mis à l'écart, qu'ils s'étaient isolés, qu'ils s'étaient retirés, presque physiquement, mais aussi intellectuellement, de la doxa qui prévalait. Le deuxième point, vous avez évoqué le mot sourate qui lui-même renvoie aussi au substrat syriaque du lexique coranique et qui veut dire section, mur, muret, un petit muret, mais une partie. Et troisième point, c'est là où je voudrais vous interroger, Olivier Anne, c'est que selon les conjectures ou les investigations à la fois philologiques et aussi des historiographes, c'est que probablement il n'aurait pas inventé cette sourate-là. Est-ce que ça ne renvoie pas à l'idée que, à un moment donné, On avait quelques codex concurrents sur le marché, si je puis dire, et certains n'avaient pas la totalité de ce qu'ils pouvaient y avoir, y compris le corpus d'Ibn Masoud, oui, dans lequel il n'y avait pas les dernières sourates dites prophylactiques ou préservatrices, oui, parce qu'elles conjuraient le sort.
La 113 et 114, tout à fait.
Voilà, la 113 et la 114, puisqu'il y a 114 sourates dans le Coran, dans la Vulgate que nous avons entre les mains maintenant. Et même la toute première sourate, oui, qui est une sourate invocatoire, en tout cas une préface, une ouvrante, comme son nom l'indique. Et même pour certains, je le soumets à votre sagacité, pour certains coranologues, même la formule propitiatoire, oui, du « au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux », ne fait pas partie des sourates, mais c'est une formule propitiatoire, un peu sous forme de prière. Et donc, peut-être qu'il y avait une sourate qu'on n'avait pas intégrée par la suite dans la Vulgate.
Alors, vous avez tout à fait raison, et vous avez très bien résumé l'enjeu, mais forcément, nous ne sommes que dans le stade des hypothèses. L'hypothèse, en tout cas, que la Fatiha, la première sourate et les deux dernières aient été utilisées ou aient été formalisées pour encadrer, pour clore, pour servir d'une certaine manière de première page de couverture et de deuxième page, de dernière page de couverture au Coran, peut être confirmé d'ailleurs par le début de la seconde sourate, Zalikal Kitab. Voici le livre qui, d'une certaine manière,
qui ne renferme aucun doute.
Exactement. Et en fait, entre guillemets, si toutes ces hypothèses sont avérées, le livre se serait ouvert originellement par une définition du livre. Le livre s'auto-définit.
Et en auto-référence, il s'affirme d'évidence que c'est le vrai.
Exactement.
Voici le livre qui n'est entaché d'aucune erreur, d'aucun doute. S'il le dit, il l'affirme d'une manière apodictique, péremptoire.
Exactement.
Et tout se construit à partir de cette affirmation.
Oui. Mais là où, en tant qu'historien, même si l'ensemble de ces recherches, de ces hypothèses qui ont quasiment un siècle et demi en Europe et aujourd'hui aussi aux États-Unis, même si l'ensemble de ces hypothèses est extrêmement intéressant, fascinant, l'historien a toujours un tout petit moment ou mouvement de retrait. Pourquoi ? Parce que ce sont, pour la plupart, d'abord des hypothèses de philologie, d'études de la langue, d'études du rapport entre la langue et le texte. Or, l'historien, lui, il a besoin de voir des gens. Il a besoin de voir des groupes sociaux. Il veut les voir vivre. Pour les voir vivre, évidemment, il va utiliser des textes. Il va aussi utiliser de l'archéologie. Et donc, sur toutes ces questions de construction du Coran, sur toutes ces questions d'influence d'une éventuelle littérature juive, d'une éventuelle littérature syriaque sur la construction originelle du Coran, pour l'historien, un rapport textuel, un rapport de texte, d'un texte à l'autre, d'un corpus à un autre, ne signifie pas nécessairement que des gens se soient croisés, qu'ils se soient influencés mutuellement. Donc, l'historien va évidemment utiliser, récupérer toutes ces recherches philologiques, mais en ayant toujours une lumière rouge allumée. Certes, il y a des rapprochements entre tous ces textes, mais attention, les gens pouvaient-ils se voir? Les gens pouvaient-ils se rencontrer? S'il n'y a pas de possibilité d'échange physique et matériel, on va avoir un petit doute quand même. Mais, de toute évidence, ces recherches sont passionnantes.
Olivier Anne, on dit, vous l'avez corroboré, que c'est Saint Jean Damascène, maintenant je le béatifie, moi en tout cas je reprends la formulation, il est mort vers 748, on est oui, vers ça. Les derniers temps de la dynastie Omeyyade. C'est lui qui aurait donné l'appellation Sarrasin, Sarrakenoy. Certains disent Oustachriki, enfin, oui, ceux qui viennent d'Orient. Oui. Mais c'est aussi l'appellation qui est très intéressante d'Agarien, oui, fils d'Agar, ou Ismaélite, oui, pas Ismaélien. Oui. Ça, on est encore en Orient. Pour faire la transition par rapport à l'Europe et la réception du Coran en Europe, donc pour parler de l'Al-Coran, en intégrant l'article Al, comment le Coran finalement est-il venu en Europe? Il est venu, nous imaginons, avec les Sarrasins eux-mêmes, par l'Espagne, ou via Sicile, oui, ou peut-être même le contact avec Byzance. Mais les toutes premières fois, comment les non-musulmans européens avaient-ils perçu ce qui fait office de texte sacré pour leurs contradicteurs et leurs envahisseurs?
Alors, pour les Européens de langue latine, ou au moins de langue latine écrite, le Coran n'existe pas, pas avant le XIe siècle. C'est-à-dire que on voit ces gens arriver en Espagne, berbères peut-être même plus qu'arabes. On en voit des petits groupes s'installer, notamment en Provence. Hein, à la gare de Fresnay, vous avez une espèce de comptoir pirate qui s'installe pour quasiment un siècle et demi. On les voit sur les côtes d'Italie entre le 8e et le 9e siècle. Mais finalement, on ne se pose rarement la question de qui sont-ils, en quoi croient-ils. On reprend en fait les appellations traditionnelles issues de Jean Damascène, passées par Byzance. Ce sont des païens. Parfois, ce sont des hérétiques. Il y a un flou total dans les dénominations. On reprend l'appellation de d'Agarénien ou de Sarrasin. En fait, c'est le mot Sarrasin qui va dominer quasiment jusqu'au XVe siècle, sans reprendre la définition ou les définitions qui ont été données par Jean Damascène. Donc, en fait, on prend un mot, on sait quasiment pas ce que ça veut dire. Mais les Européens, dans justement cette espèce de reprise d'un mot dont on ne connaît pas le sens, ça sera quasiment une tradition par la suite. Les Européens aiment la langue arabe d'une certaine manière. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que il y a une étrangeté. Les Européens, à partir du XIIe siècle, commencent à redécouvrir le grec, donc on peut éventuellement comprendre ce que ça pourrait vouloir dire en grec, mais la langue arabe est totalement inconnue. On a de toute évidence quelques connaissances sur l'araméen, qu'on appelle parfois le chaldéen, mais voilà, l'arabe, c'est l'inconnu total. Mais on aime cette langue. Pourquoi on aime cette langue? Parce que son mystère, le mystère de sa prononciation, et le fait que c'est une langue par laquelle a transité un corpus astronomique, astrologique, fait que on va en conserver le mystère. Et lorsque, à partir du XIe siècle, enfin, les Européens commencent à imaginer qu'il peut y avoir un texte derrière cette foi, un texte sacré considéré comme tel, eh bien, les Européens, quand ils vont commencer à aller chercher des textes arabes, très souvent gardent des mots arabes, ce qui rend leurs textes parfois complètement incompréhensibles. J'ai un exemple, par exemple, à vous donner. C'est vers 1106 à peu près, un Anglais, Adélard de Bath, traverse la Méditerranée. On est en plein dans les croisades, donc la dangerosité des communications dans le Levant est totale. Il va jusqu'à Édesse, Antioche-Édesse à peu près, et il se met à l'arabe, alors que les croisades sont en train de déchaîner l'Apocalypse en plein Orient. Et lui, il voyage, il se met à l'arabe, il commence à apprendre, il commence à essayer de traduire Euclide qui était passé par l'arabe. Il traduit des tables astronomiques d'Abou Machar qu'il a pu trouver probablement à Harran, qui était un grand centre d'astronomie sabéenne, dit-on. Bref, un personnage totalement improbable qui prend tous les risques pour la science, entre guillemets. Et de retour, il publie plusieurs textes en disant « la science, elle est chez les Arabes ». Et ces traductions gardent des mots arabes qui sont totalement incompréhensibles pour des Européens. Par exemple, lorsqu'il fait des calculs astronomiques pour savoir à quel moment telle planète est dans tel ascendant, il traduit Jamal et Shemal, hein, le nord et le sud. Et au lieu de traduire nord et sud, il traduit par Jemali et Shenoubi. Donc un pauvre latin qui veut comprendre comment fonctionne l'astronomie, tout d'un coup il voit Gemali et Chenoubi, il peut absolument pas comprendre. parce que l'arabe, c'est la science d'une initiation. On s'initie. Évidemment, il y a une fascination, une répulsion, hein, ça c'est évident. Mais vous avez des personnages hauts en couleur qui prennent les risques pour aller faire ces découvertes.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, pour la première partie, nous parlons du Coran, l'Al-Coran, selon l'acception latine qui a prévalu jusqu'au 19e siècle en Europe, avec l'historien Olivier Hahn. Olivier Hahn, vous êtes agrégé docteur en histoire et vous êtes professeur aux écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan. C'est vrai que nous parlions du Coran, mais ce que vous avez dit juste avant me renvoie, pour la soumettre aussi à votre sagacité, à cette idée que si on avait gardé des mots de l'arabe et qu'on a légèrement latinisé, c'est que par moments on savait pas à quoi il renvoyait selon la densité, là aussi polysémique, des sens. J'ai un exemple en tête qui nous dévie un peu du Coran, c'est l'algèbre d'Algorithmus, d'Al-Khawarizmi. Quand Gérard de Cremona voulait traduire, il savait pas si ça devait renvoyer à la contrainte, à la puissance, à la restauration ou à la guérison. C'est ce à quoi renvoie le mot al-jabr en langue arabe.
Tout à fait.
Donc, comme il était un peu, j'ose dire, maintenant par l'histoire, un peu déboussolé, il ne pouvait pas trancher en choisissant un sens parmi ces quatre. Il s'est dit, bon, il n'y a peut-être pas mieux que de garder le mot tel quel en le latinisant par algebra. Je ne sais pas si c'est ça l'idée ou pas, dans ce que vous avez dit, et surtout avec Adélard de Bath, que certains confondent avec Abélard,
bon, oui,
c'est
non,
vrai
oui,
c'est
oui.
À une lettre oui. près, et c'était toute l'effervescence de traduction de la Translatio Studiorum,
oui.
cette fois-ci, qui fait qu'après une première effervescence, on traduisait via le syriaque du grec à l'arabe,
oui.
là on traduit vers le latin de l'arabe, avec toute cette cohorte de grands traducteurs, y compris Robert de Chester
oui.
ou Michael Scott ou Daniel de Morlaix, pour ne parler
oui.
que de ceux qui sont dans la partie plutôt septentrionale de l'Europe. Et alors, pour revenir à notre sujet, entre l'hérésie ou une foi tout à fait autre et païenne, comment va-t-on par la suite trancher? Parce qu'on a dit que le prophète de l'islam, in fine, n'est qu'un rabbin qui voulait se venger du christianisme,
oui.
ou encore un cardinal n'étant pas élu à la papauté, se venge en créant une autre religion.
Oui, donc sur la question du prophète Mohammed, une multitude d'explications plus ou moins légendaires, plus ou moins farfelues ont été mises en place finalement dès le Xe siècle et surtout ont été formalisées, détaillées dans une multitude de traités latins à partir du XIIe siècle. La plupart du temps, ce qui ressort, c'est l'usurpation. Voilà, c'est un usurpateur, il a menti. Et l'idée d'usurpation qu'incarnerait Mohammed est indissociable de l'idée d'usurpation du texte. À partir de la fin du XIe et enfin du début du XIIe siècle, on a non seulement des bribes du Coran, des morceaux de sourates qui parviennent en Europe, souvent à travers d'ailleurs les communautés juives d'Andalous, qui communiquent avec les communautés juives de Montpellier, de France. Donc, on commence à avoir des textes issus du Coran, du vrai Coran, entre guillemets, qui pénètrent en Europe. On commence à les traduire en latin. Les premiers traducteurs de ces sourates sont en général des juifs, notamment Pierre Alphonse, qui est un juif converti. Et, en fait, lorsqu'on découvre ces sourates, immédiatement, il y a l'idée d'usurpation. En fait, ce Coran qu'on va petit à petit appeler tel quel, Al-Coran, ne correspond à rien. C'est-à-dire que les Latins, avant d'être, entre guillemets, des ennemis des musulmans ou être des ennemis de l'islam, fonctionnent d'abord avec des critères de genre. Il y a des genres littéraires. Tous les textes doivent respecter des genres littéraires, la chronique, les annales, la correspondance, et il y a les textes sacrés qui sont un genre à part. La Bible est un genre à part. Et donc, à partir du IVe siècle, et surtout avec Saint Jérôme, ont été formalisés le genre du texte sacré, le genre biblique. La Bible respecte tel et tel canon. Si vous traduisez la Bible du grec au latin, il faut traduire mot à mot et non pas traduire en interprétant, parce qu'il faut respecter au maximum la formule de la phrase grecque ou hébraïque quand on peut y accéder. Or, le Coran arrive, où on commence à percevoir son existence, et évidemment, on va appliquer au Coran l'ensemble des conceptions sur les genres littéraires. Et évidemment, il ne correspond à aucun genre littéraire gréco-latin, pour faire simple, ou gréco-christiano-latin. Et donc, comme il ne correspond à aucun genre, il n'y avait que deux solutions. Soit on crée un genre nouveau, soit on dit « bah c'est rien du tout, donc il suffit de l'écarter ». Et on va l'écarter en démontrant, argument contre argument, qu'il est complètement faux. Ça va être le travail d'un très grand nombre de polémistes, qui d'ailleurs la plupart du temps ne parlent absolument pas l'arabe, mais qui vont récupérer ces petites traductions en latin de tel ou sourate ou de tel morceau, ou parfois même aussi d'extraits de la sira. Et leur travail, c'est de faire de la polémique, c'est-à-dire que de montrer en comparant avec la Bible, de montrer en redéfinissant les genres littéraires que le Coran ne correspond à rien. Mais toutefois, à partir du XIIe siècle, vous avez toute une série d'auteurs, de traducteurs, de la plupart du temps des moines, notamment Robert de Ketton, qu'on appelle aussi parfois Robert de Chester, qui, lui, n'est pas un polémiste, c'est un traducteur, c'est-à-dire c'est un technicien, il traduit des maths. C'est un mathématicien qui traduit des textes mathématiques, souvent d'Al-Khwarizmi. Et l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, lui commande une traduction du Coran en latin. Robert de Ketton va prendre le Coran comme il prendrait n'importe quel autre texte. C'est-à-dire, entre guillemets, alors c'est peut-être anachronique de dire ça, mais sans jugement péremptoire. C'est pas un polémiste, c'est un technicien. Et donc, il va mettre à peu près 2 ans à traduire le Coran, et il va en faire finalement un genre à part, le genre de l'Alcoran. L'Alcoran, à partir du XIIe siècle, devient un genre littéraire. Et donc, entre dans les canons des systèmes littéraires acceptés, ou en tout cas qui font partie d'une certaine culture européenne. Je lis la Bible, je lis les Pères de l'Église, et je lis aussi l'Alcoran. C'est un genre.
Oliviane, je vous écoute vraiment avec un grand intérêt. Nous connaissons, et à travers vous, c'est corroboré à la fois cette commande de Pierre le Vénérable, puis la traduction comme technicien, comme vous le dites si bien, de Robert de Ketton, Robert de Chester, dont on dit que c'est pas plutôt ce n'est pas le pape Sylvestre II qui a introduit les chiffres d'Iara, mais c'est plutôt lui. Mais là, il y a tout le débat entre historiens. Ouais. Mais c'est plutôt vous qui saurez le trancher. En revanche, ma question, c'est, et qu'est-ce qu'il y avait avant, puisqu'on parle surtout à propos des moines, de Odon? À la fin du Xe siècle, il a joué un rôle, il s'était intéressé lui-même, savait-il un peu l'arabe, ou il a demandé à connaître davantage ce texte des Sarrasins?
Odon de Cluny, donc l'abbé de Cluny, vous avez là le monastère de Cluny qui, au Xe, XIe siècle, est quasiment l'un des plus puissants d'Europe. Il a des réseaux absolument partout. Le monastère de Cluny a aussi des réseaux dans le nord de l'Espagne, qui permet d'ailleurs de nouer des liens, d'échanger des manuscrits avec l'Andalous. Et Odon de Cluny, à la fin du Xe siècle, est probablement l'un des premiers responsables religieux très importants d'Europe à passer une commande. Alors, il ne va pas passer commande d'une traduction du Coran parce que justement l'idée de la réalité de ce texte n'est pas encore totalement certaine chez les Européens, mais il va commander ce qu'on appelle un glossarium, c'est-à-dire un dictionnaire arabe-latin. Et il est fort probable que ce sont des moines de Cluny qui soient allés dans le nord de l'Espagne. Peut-être qu'ils aient eu des liens avec soit des chrétiens mozarabes, c'est-à-dire les chrétiens qui étaient restés sous domination islamique en Andalousie. On ne sait pas par quel biais ce dictionnaire a été mis en place, mais Odon a finalement été destinataire d'un glossaire d'à peu près 5000 termes arabes, écrit en arabe sur la partie gauche et en latin sur la partie droite. Et ce qui est très impressionnant, c'est que les mots latins qui traduisent les mots arabes, souvent vous avez plusieurs mots latins pour un seul mot arabe. Ce qui signifie que, alors qu'on est à la fin du Xe siècle, ces moines clunisiens ou ceux qui les ont aidés à faire ce dictionnaire avaient conscience de la polysémie. Et que on a besoin de plusieurs mots parfois pour traduire une seule réalité. Et ce qui est pourtant là aussi surprenant, c'est que ce dictionnaire qu'on pourrait alors peut-être pas utiliser aujourd'hui, mais qui est quand même très très intéressant, oublie des mots absolument essentiels comme livre, comme Dieu, comme prophète. Donc on a une multitude de termes très riches. Rares, ou en tout cas des termes qui font partie de la langue arabe, mais des termes qui peuvent paraître complètement basiques sont absents. Donc là, on ignore pourquoi ces oublis. En revanche, suite en parallèlement à ce glossarium, ce qui est clair, c'est qu'à partir de la fin du Xe siècle et du début du XIe siècle, le mot livre à propos du Coran qui n'est pas encore identifié avec ce mot-là, mais le mot livre est désormais régulièrement utilisé notamment dans les chansons de geste. Les chansons de geste, la chanson de Roland, la grande chanson de guerre du début du XIe siècle qui rappelle le fameux passage de Roncevaux.
Qui n'est pas tendre vis-à-vis des Sarrasins et à commencer du prophète des Sarrasins.
Exactement. Et donc, dans la chanson de Roland et dans les chansons de geste, où le personnage du Sarrasin est très, très fréquent, eh bien, on voit le mot livre. Et il y a même des passages dans certaines chansons de geste où, lorsque un aristocrate franc rencontre un aristocrate arabe, musulman, et qu'on va faire la paix, eh bien, qu'on soit musulman ou chrétien ou autre, peu importe, nous sommes des aristocrates. Nous faisons la paix avec les mêmes modèles. En fait, le sarrasin, le chef tribal arabe, reste d'abord un aristocrate. Et donc, on discute d'homme à homme et à pied d'égalité. Et donc, si on va jurer la paix pour les 2-3 prochaines années, moi, je prête serment sur des reliques ou sur la Bible, et le sarrasin prête serment sur un livre. Et donc, début XIe siècle, c'est la première fois où apparaît la réalité du Coran.
C'est l'aspect chevaleresque aussi. Exactement. De ces rencontres. Merci infiniment, Olivier Hahn. Nous arrivons au terme de cette première partie. Merci. De notre entretien. Un entretien à un tronc commun et parfois il se ramifie. On est allé vers certaines branches, mais on reviendra au tronc commun. Et comme vous nous avez fait la promesse de revenir la semaine prochaine, eh bien, je l'annonce d'ores et déjà à nos amis auditeurs. C'était Question d'Islam et vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Claude Nior et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin. في الظلال للصدى توق إلى حضن التلال للندى لون احتضار كالغروب لليالي سرها يكسو وساها للندامة خمرهم مالي سواها للأسى بيت كجسم مطمئن
في أخفي ما بدا للناس مني منا
لذا طفت أغني